présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Entre la lune et moi, aux 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Junier Jean-Pierre.
Oh là là, tu peux pas m'aider à sortir de la voiture. Ce qui t'arrive, ce sont les ans qui pèsent sur mon corps. Je suis tout corbaturé. Je me fais sérieusement vieux. Tu verras toi aussi quand tu auras mon âge. T'as pas une si grande différence entre nous deux. Merci, je suis enfin sorti de cette voiture. La canne, s'il te plaît, je ne peux pas me baisser. Elle est là, sur le siège arrière. Tu as bien garé la voiture, n'était pas trop près du bord. Non, ça va. Regarde comme c'est beau. Le soir commence à tomber, la montagne s'assombrit, mais le ciel reste clair et bleu. Ah. Le soleil n'est pas si haut. mais il fait aussi doux. Quelle magnifique journée nous avons eue. Tu crois que nous allons trouver une chambre? Oui, il n'est que 20h. Il n'est pas si tard. Bonjour mademoiselle, nous désirions deux chambres ou une chambre à deux lits. Ça n'a pas changé ici depuis le temps. Tu te souviens de la chambre que nous avons eue la première fois que nous sommes venus? Non, attends, je crois qu'elle était en face de la salle de bain. C'est la même qu'on nous donne. Oui, je me souviens de ces affreux meubles. Tu avais même déposé ton lit mis près de la fenêtre. Mademoiselle, nous désirions dîner ici. Est-ce possible? Bon, eh bien, nous allons chercher nos bagages et faire toilette avant de dîner. Si tu veux, cette fois, c'est moi qui choisirai le menu. Désirions une table près de la fenêtre. Merci. Nous serons très bien ici. Bon, voyons ce que nous allons manger. Velouté de cresson, truite aux amandes, salade verte, lapin chasseur, fromage. Et pour finir, une omelette norvégienne. Le tout arrosé de champagne. Voilà, ça te va. Et comment? Une truite aux amandes. Tu te souviens que j'en avais mangé déjà une? J'adore le poisson. Oui, j'en avais mangé déjà une la première fois que j'étais venu ici. Ici, rien n'a changé. J'ai l'impression qu'il n'y a que nous deux qui avons changé. Tu te souviens de la machine à remonter le temps? Eh bien, ce voyage, pour moi, c'est la même chose. Nous avons remonté le temps pour les autres, mais pas pour nous. La machine nous a laissé nos corps aussi vieux et fatigués qu'avant notre voyage. Regarde le paysage comme c'est beau. La nuit est venue, une nuit de juin courte et chaude. Une nuit pour le bonheur, l'espérance, une nuit pour l'amour. C'est la pleine lune, vois ses reflets sur l'eau, comme c'est beau. Et toutes ces étoiles, tout à l'heure, nous allons voir comme en plein jour. Nos vestes et nos chapeaux, canne. J'ai horreur des chapeaux, mais je crains tellement l'humidité. Dire que nous avons bien mangé. Et même un peu trop. Une omelette norvégienne à nous deux, alors qu'il y en avait pour 6. Oui, je dois faire attention à ma ligne. Tu as vu le ventre que j'ai? Toi, par contre, tu es toujours resté aussi maigre. Ce sont mes repas à 6,50 francs. Tu te souviens? Écoute, j'aime entendre le bruit de nos pas sur le gravier. Oui, et quelle nuit magnifique! Tiens, regarde! Il est toujours sur le chemin des grenouilles. Je me suis toujours souvenu du torrent qui se déverse sur le lac, là à gauche, et cette cascade qui se trouve en face de nous, toute cette eau qui tombe de la montagne. Tout est calme, seul le bruit de l'eau interrompt le silence. Combien de temps avions-nous mis pour faire le tour du lac? Je ne m'en souviens plus. 2 heures, je crois. Maintenant, nous allons sûrement mettre beaucoup plus longtemps. Avec ma jambe droite qui me fait mal. J'ai mal depuis l'âge de 34 ans, je crois. Mais je boite sérieusement depuis 10 ans. Cela ne m'empêche pas de faire de longues marches en montagne. La joie de la montagne dépasse mes douleurs physiques. Nous étions assis là, sur ce tronc d'arbre. Il n'y en a plus maintenant. Je te parlais de mes problèmes d'alors. Je me souviens même qu'en face de nous, un homme est passé et avait une lampe pour s'éclairer. Mais je me souviens de tout ceci. Et l'autre suicide. Bon, ce soir, nous ressemblons à 2 hommes en peine, errant sur la pleine lune. Ou plutôt à 2 fantômes, cherchant pourquoi ils ont quitté leur carapace de vivant. Avons-nous vraiment raté notre suicide? Notre vie s'est-elle arrêtée ce jour-là? Faisons-nous pas semblant de vivre depuis la minute où nous avons décidé de mourir? Faire semblant de vivre pour que les autres nous laissent en paix. Tu sais, le mois prochain, je t'invite dans mon chalet. J'ai invité Charles et Florence. Tu emmèneras ta femme aussi.
Te remercie, mais pour ce qui est de ma femme.
Ta femme ne m'a jamais beaucoup aimé. Elle nous pensait que je t'accapare trop. Nous sommes trop souvent ensemble. Elle a l'impression que je lui vole certaines confidences, certaines joies. Pourtant, au début, cela s'était bien passé entre elle et moi. Elle avait même accepté que je devienne parrain de votre premier enfant.
Que veux-tu? Les femmes veulent être le centre du monde.
J'ai eu des nouvelles de mon petit David. Tu te souviens, il est médecin à Paris maintenant. Ça marche bien pour lui. Mais je trouve qu'il travaille trop. Et toi, tes enfants?
Philippe, ton petit Philippe, il est en Allemagne pour 1 semaine. Cette fois, sa femme est partie avec lui. Il va diriger l'orchestre de Munich. Odile et son mari ont été mutés dans une petite école près du Vercors. Ils sont désespérés de ne toujours pas avoir d'enfants. Les enfants, la famille, quel souci. Toi, tu as de la chance de ne pas être marié.
Arrêtons-nous 5 minutes, que je repose ma jambe.
Si tu veux, un petit vent s'est levé. Regarde, il fait des rides sur la surface de l'eau. Des rides. Nos visages en ont. Et pas des rides en surface. Elles sont profondes. Ce sont toutes ces années de peine, de désillusion. Je me mets des fois à regretter d'avoir raté notre suicide. Et puis non. Cela m'a permis d'avoir 2 beaux enfants. Et puis, de voir le monde et ses bêtises. J'allais dire et ses horreurs.
Notre suicide, c'était en quelle année? Cela est tellement vieux. Je devais avoir dans les 30 ans et toi dans les 18-20. Maintenant j'en ai 70. Ouais, cela devait être dans les années 80. 83.
Dès le début de l'année, nous avions décidé de mettre fin à nos jours. Nous ne voulions plus vivre dans ce monde absurde, d'horreur, de fausse joie. Nous n'avions retrouvé rien de suffisamment fort qui puisse nous raccrocher à la vie. Nous passions nos soirées à tergiverser sur le suicide. Je disais qu'il ne fallait pas tout accepter de la vie. Tu étais d'accord avec moi. Tu disais que l'on soit en bas ou en haut de l'échelle, c'est la même chose. Que l'on ait raté sa vie ou que l'on ait réussi, c'est pareil. On aboutit à la même chose. Notre vie est ratée quoi que l'on fasse. Tout est nul, car l'absolu ne se trouve pas de ce monde. Les mois passèrent et au fur et à mesure que la date approchait, tu devenais plus nerveux, anxieux. Tu étais arrivé à une chose incroyable, inouïe, c'est que ni la vie ni la mort n'étaient capables de t'apporter de solutions suffisantes et positives à tes yeux, car tu avais peur que la mort ne soit pas le néant. Tu aurais voulu transformer le monde, le rendre plus pur, plus vrai, plus fort. Ce monde te dégoûtait avec ses injustices, ses horreurs. C'était surtout les hommes qui te répugnaient, car leur faiblesse, leur façon de vivre, d'accepter de vivre. Tu ne pouvais pas supporter de voir les gens rentrer dans le jeu, de les voir tout accepter sous prétexte qu'il faut continuer à vivre. Toi, tu ne voulais pas rentrer dans le système. De les voir s'enivrer de fausses joies, tout ceci te répugnait. Tu disais que les hommes étaient faibles et qu'il suffirait de peu de choses pour que leur vie bascule dans l'abîme et le néant. Une minute de réflexion, une maladie, des soucis financiers, une mort et tout s'effondre. La routine de la vie a cessé. L'on est perdu. Toi, rien ne t'intéressait. Tu disais que quoi que l'on fasse, nous ne pouvons pas changer le monde. Il est impossible d'être heureux dans un monde pareil. Tu n'avais goût à rien. Il n'y aurait eu qu'une seule chose qui t'aurait plu, c'était la fin du monde. Tu aurais aimé mourir, mais tu avais peur qu'il y eût après la mort autre chose. Toi, tu voulais la mort pour la mort sans au-delà. La mort, pas pour la mort, mais pour le néant qu'elle apporte. Tu te sentais entre deux feux, entre la vie qui est une négation et la mort qui peut être néant s'il n'y a pas un au-delà. Tu aurais souhaité un accident, car tu avais peur que les gens ne comprennent pas ton geste. Le soir, tu prenais ta voiture et sur les boulevards, tu roulais à 120. Tu arrivais chez moi, l'air triste et abattu. Tout te dégoûtait. Tu aurais aimé que ta vie soit déjà finie. Tu ne pouvais plus supporter de voir les gens satisfaits de leur petit bonheur. Tu me disais, comment faut-il être heureux dans ce monde de souffrance? Ça te dégoûtait de les voir satisfaits d'eux-mêmes. Et moi, par contre, j'étais détendu, joyeux. Pour moi, la mort était une solution logique à la fin de mes peines. Puisque je ne pouvais ni ne souhaitais en guérir, je me disais que ce n'était pas vivre que de continuer à vivre avec une éternelle souffrance. J'étais inquiet pour toi. Je t'avais mis ces idées en tête et j'en avais des remords. Toi, de ton côté, tu t'étais imaginé que l'idée du suicide venait de toi et tu te sentais coupable vis-à-vis de moi. Le soir décisif arriva, tu es venu comme tous les soirs. Tu étais inquiet, nerveux, tu Il tenait pas en place. Tommy a parlé pendant des heures. Tu voulais que l'on remette à plus tard ce que l'on avait décidé. Toi, tu voulais mourir, mais sans te suicider. Tu voulais que Dieu te rappelle à lui. Et tu voulais me convaincre de la même chose. Et tu parlais, je ne pouvais pas dire un mot. Tu voulais me faire croire qu'il n'était pas bien de se suicider, que ce n'était pas noble, que cela voulait dire que notre vie était un échec et que l'on n'était pas assez fort pour lutter. Tu disais que les autres, ceux que nous trouvions pas bien, étaient plus forts que nous puisqu'ils ne s'avouaient pas vaincus par les difficultés de la vie. Je te disais que pour moi c'était pas la même chose, puisque ma vie n'était que souffrance, et que ma recherche de l'absolu avait abouti à la mort. Et puisque je souffrais, ma vie n'était plus possible. Mais par contre, pour toi, je voulais que tu vives, car tes motifs n'étaient pas suffisamment forts pour que tu meures. Et puis, tu étais encore très jeune. Le temps passait, tu parlais toujours et toujours, je ne pouvais dire mot. Et puis, de guerre lasse, d'un seul coup, tu me dis, pourquoi pas, à la grâce de Dieu, si Dieu veut que je meure ce soir, Dieu a toujours raison. Allons, viens. Je n'ai pas cherché à te convaincre cette nuit-là. Je n'aurais pas pu, car tu ne m'as pas laissé dire un mot. Tu t'es convaincu seul. Nous avons vidé nos poches. Déchirer nos papiers. Et nous sommes partis. La nuit était noire, pas de bruit, nous étions seuls sur la route, nous ne parlions pas. Ton visage était fixé sur la route, il était calme, parlait très vite mais détendu. Nous sommes allés jusqu'au mont Verdun. Sommet, tu t'es arrêté. Tu m'as regardé. Tu avais un petit sourire aux lèvres. Ton visage semblait détendu et lumineux. Moi, ma tête était vide. J'étais bien et calme, très calme. D'un seul coup, je m'aperçus de la chose. J'allais mourir, oui, mais accompagné. Je ne voulais pas que mon suicide devienne un assassinat, provoqué par mes idées. J'allais pousser un cri d'horreur, hurler. Que j'écris que je vais hurler, car rien n'a été encore fait. J'imagine seulement ce qui risque de se passer. Ce qui va se passer sera la réalité tout crue. Nous sommes en février et nous avons décidé de mourir en juin, et juin approche. Je veux mourir, oui, mais je ne veux pas que tu en fasses autant. Toi, tu es encore jeune, fort. Ce serait un crime, oui. J'ai posé ta main sur mon bras et mis le moteur de la voiture en route. ne font plus qu'une ligne droite, se terminant par un virage dû accélérer. Je me retrouvais à l'hôpital, au lit, avec des bandages au visage et au bras. J'avais la tête vide. Plusieurs jours, mon esprit s'est remis en place. La première des choses dont je m'inquiétais, c'était de savoir ce que tu étais devenu. J'ai eu quelques nouvelles brèves par des infirmières. Pour me dire que tu n'avais pas eu grand-chose et qu'après quelques jours, tu retournerais chez toi.
Loin et triste, ma maison de repos, les vies de la famille. Je ne pouvais pas te revoir. C'était tout juste si j'avais de tes nouvelles. J'étais très inquiet. J'ai appris plus tard que ta famille ne voulait plus que nous nous revoyions. Et s'était douté de quelque chose. Oui, la quête de l'assurance, mon anxiété, on met la puce à l'oreille. Et puis, tu étais avec moi. Moi, dans mon accident, je n'avais pas eu grand-chose. Après quelques semaines d'hôpital, quelques mois de maison de repos, tu ne savais pas que j'étais parti en maison de repos. Je me suis retrouvé chez moi, la tête vide, encore plus vide qu'avant. J'avais un immense dégoût de vivre. Je m'inquiétais pour toi, mais je n'avais pas le droit de te voir ou de t'écrire. On me surveillait. Je ne pouvais plus sortir seul. J'étais épié, espionné. Pour me distraire et me redonner goût à la vie, on me présentait à des tas de jeunes filles. Je les trouvais bêtes, gauches, stupides. Mais elles étaient surtout gauches parce qu'on leur avait fait la leçon. Tu comprends? Un jeune homme qui avait tenté de se suicider, cela impressionne. 2 ans, 3 ans passèrent et j'étais toujours dégoûté de la vie. De la vie, je n'en voulais pas. Lorsque tu es rentré chez toi, j'ai trouvé le moyen pour venir te voir en cachette. Toi non plus, tu n'allais guère mieux. Un jour, j'ai rencontré Rose. J'en avais assez de lutter contre ma famille, de guerre lost, de dépit. Je me suis marié avec elle.
Thank you. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Et puis, je me suis mis à l'aimer. Rose, la seule jeune fille à qui la famille n'avait rien dit. Mais 3 ans après notre mariage, elle l'a pris. Et c'est pour ça qu'elle ne t'aime guère. Quelle heure peut-il être ? 1 heure. Il est temps de rentrer, mais avant, continuons le tour de notre lac. Tu sais, au retour, j'aimerais que nous passions quelques jours à Genève. De toute façon, nous sommes à la retraite tous les deux. Rien ne presse pour rentrer. Bien, si ce soir on écoutait un peu de musique à la radio, n'oublie pas le mois prochain le concert à l'Auditorium Ravel. Il fait très beau cette nuit. La douleur de ma jambe s'atténue. Tu sais, je voulais aussi mourir parce que j'avais remarqué qu'une douleur voilait une autre douleur et qu'elle pouvait faire oublier les douleurs passées. Je ne voulais pas de cela. Je voulais garder présents les motifs de mes souffrances. Avoir de nouvelles souffrances, puisqu'il le faut, mais en gardant les anciennes. Je voulais que ni l'ivresse ni la douleur ne puissent m'enlever les motifs de mes souffrances passées, présentes et à venir. Ces souffrances qui étaient moi et moi en entier. Car si je souffre, c'est à cause de mes idées, de mon caractère, de mes sentiments, de mon esprit, de mon âme. Puisqu'elles étaient causées par tout ceci, elles étaient moi et moi tout entier. Oublier de mes souffrances, le motif de mes souffrances, c'était perdre une partie de moi-même, c'était perdre une partie de mon caractère, c'était perdre une partie de mon âme, c'était perdre une partie de ma vie ancienne. Chaque fois que j'oubliais le motif d'une douleur, je n'étais plus moi-même, je devenais un autre. Ils en disent d'une personne, après une grande douleur, qui s'en est remis, que cela mûrit. Non, cette personne n'a pas mûri, mais elle n'est plus la même, puisqu'elle a perdu une partie de son âme. Moi, je veux rester moi-même jusqu'à la fin. Continuons notre tour du lac. Tout de même, les idées que nous avions sur la vie, la mort était forte, grande, vraie. Vivre noblement, debout, avec tout ou rien. Te souviens-tu que je disais aussi que je ne pouvais pas être heureux, qu'il est impossible que je sois heureux, car seulement de savoir qu'un être humain souffre, cela m'empêchait de l'être. J'aurais aimé arracher à l'humanité toutes ces douleurs. Si j'avais été sûr que ma mort puisse sauver le genre humain, je me serais tué de suite. Tu disais que j'étais un nouveau Christ. Nous étions jeunes en ce temps-là. Je disais aussi que ni la vie ni la mort ne me plaisaient. Je voulais le néant. Mais la mort m'attirait plus que la vie. D'abord parce que c'était la seule façon d'aboutir au néant, même si ce n'était pas tout à fait le néant. Ensuite, à cause de son mystère, après la mort, qu'y avait-il ? Et si cela me permettait de rencontrer Dieu ? Oui, mon but, ce serait de voir Dieu et lui demander pourquoi tout ceci. Continuons notre tour du lac. Avons-nous vécu noblement ? Continuons notre tour du lac. Qu'avons-nous fait de nos idées ? Laissons partir ces deux silhouettes, ces deux personnages qui disent être nous dans le futur. Ce sont même pas des fantômes. Que représentent-ils ? Rien.
Que sont-ils? Rien. Puisqu'en juin, je, où nous allons mourir, mais si nous continuons à vivre malgré nous, serons-nous comme eux? Faut-il dire j'aimerais être comme eux, ou faut-il dire que je n'aimerais pas être comme eux? Hier, je me suis confessé. Je n'ai rien ressenti, ni trouble, ni force, ni pureté. Je crois que je suis en-dessus de ces choses. Je me sens en dehors de la morale, de la religion, des lois. Je ne supporte plus le soleil, la lumière, les beaux jours. Tout ceci m'attriste énormément et me donne encore plus envie de mourir. J'étais dans la nuit, la vie m'a donné la lumière, l'espoir d'être heureux, de pouvoir vivre grandement, noblement. L'espoir d'être heureux, de pouvoir vivre grandement, noblement. La vie m'a repris la lumière, merci pour les quelques rares moments de bonheur, de joie que la vie m'a offerte. La lumière m'a quitté, j'étais dans la nuit, je retourne à la nuit. J'aimerais trouver une certaine sérénité, mais je n'y arrive pas. C'est certainement mon instinct de conservation qui me fait arrêter certaines choses. Ou est-ce parce que je ne suis pas assez noble? Je revois et cela me fait mal des images du passé. Et puis je suis inquiet pour Marc. Je ne veux pas qu'il fasse de bêtises à cause de moi. Il est jeune, plein de noblesse, ce serait un crime. Je souffre beaucoup moralement et physiquement, surtout la nuit. Je ne souffre pas de vouloir mourir, mais d'avoir perdu l'espoir d'une meilleure vie. On ne peut pas, après avoir vu la lumière, retourner à la nuit sans une grande souffrance. Les ténèbres de l'enfer nous semblent encore plus terrifiantes après avoir connu la lumière. Conseil, surtout ne m'aimez pas, car en m'aimant vous aimerez la mort. Oui, j'aime la mort, car elle termine et purifie toute vie, toute souffrance. À ceux que j'aime, je ne peux leur apporter que l'amour de la mort. J'étais dans la nuit, je retourne à la nuit pour toujours. Dernier espoir. Mon Dieu, pardonnez mes fautes et guidez-moi vers la lumière. Non, je ne peux pas vivre, car j'ai perdu tout espoir de vivre noblement. Dans ce monde de ténèbres, si on n'est pas soutenu, accompagné par la lumière de la grandeur de la noblesse, il est impossible de vraiment vivre. Ou alors, il faut faire comme les autres, vivre en acceptant tout. Moi, je ne le peux pas, car j'ai connu la lumière. Ceux qui peuvent, ils ne l'ont jamais vue. Je refuse de vivre dans ce monde de souffrance, d'horreur où la médiocrité règne. Je ne veux pas vivre sans idéal. Je souffre de savoir qu'il n'y a pas d'absolu, de vrai absolu, dans ce monde sans grandeur ni pureté. Frappe à la porte. Qui êtes-vous, monsieur? Vous ne me connaissez pas, mais je suis Florent. Que voulez-vous? Moi aussi, j'aimerais. Qui vous a permis? Vous dites que je vous quoi? Moi aussi, j'aimerais mourir. J'ai les mêmes idées que vous, vous savez. Et puis je trouve que c'est très bien ce que vous allez faire. Vous dites que vous avez les mêmes idées que nous, que ce sont des idées que nous avons, mais ce ne sont pas des idées, c'est physique, c'est plus que des idées. Tiens tout, c'est notre vie, c'est nous en entier. Oui, nous en entier. Non, que faites-vous ici? Mais pas votre place. Et où est ma place? J'ai l'impression qu'elle est nulle part. Vous savez bien que votre place n'est pas avec nous, car vous ne diriez pas que votre place est nulle part. Mais nous savons où est notre place. Elle est en dehors. Allons, Florent, partez. Je n'ai pas besoin de vous. Ne soyez pas triste. Je ne suis rien. Je ne sers à rien, à personne. Si vous m'avez aidé et servi, car j'ai compris grâce à vous que les idées que nous avions sont plus que des idées.
Entre mes nuits, ce sont des visages, des paysages qui viennent à moi pour que je n'oublie pas ce qu'a été ma vie.
Tu as l'air si fragile, si vulnérable dans ton lit. Maman, pourquoi trembles-tu?
Ce n'est rien, Jean-Pierre. Ce n'est rien. Je ne suis pas malade.
Maman, maman, pourquoi ne veux-tu pas sortir de ton lit?
Parce que j'en ai pas envie. Je n'ai plus goût à rien. Non, Jean-Pierre, ne pleure pas. Toi, tu as eu tes ennuis l'année dernière. Ce n'est rien, Jean-Pierre. J'aimerais mourir, c'est tout. Mourir. Maman, pourquoi est-ce que la dernière image que j'ai de toi est le contraire de ce que tu étais durant toute ta vie? Tu étais si grande, si forte, si sûre de toi, prêt à tout. La vie, ses épreuves ne te faisaient pas peur. Maman, si tu savais comme j'ai besoin de toi.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.